Alors, je vais céder la parole à Ernest-Marie Bonda, qui est professeur d'éthique de philosophie du droit et de philosophie politique à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé au Cameroun. Il a fondé dans cette université en 2002 le Centre d'études et de recherche sur la justice sociale et politique, et il est actuellement chercheur invité au CREUM. Ses domaines de recherche sont, alors je vais citer ceux qui ont été les plus prégnants dans ta carrière, savoir la justice sociale et politique et précisément les questions relatives aux identités ethnoculturelles dans les États multiculturels. Et tu t'es intéressé par exemple à la question des droits des minorités en Afrique à partir des cas du Cameroun et du Burundi. Il est chercheur, donc comme je le disais, invité au CREUM et s'intéresse en particulier à la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est à ce titre qu'il intervient dans ce panel.
Merci beaucoup. Ma communication va porter sur la responsabilité sociale des multinationales en rapport avec le droit au développement. Je voudrais commencer par une remarque qui a été faite, c'est que la thématique de la responsabilité sociale de l'entreprise a donné lieu depuis quelques années à une intensification de la recherche académique sur la relation entre l'éthique et les affaires, mais en même temps à une profusion de normes, concernant la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc c'est vrai que cette profusion de normes peut être saluée, peut être considérée comme un consensus sur la nécessité de la régulation des activités économiques et en particulier des activités des entreprises. Donc, mais en même temps, je vois dans cette profusion de normes une sorte de chaos normatif, et je me demande s'il est possible de sortir de ce chaos d'ici à 10 ans pour donner un statut véritable, un statut normatif véritable à ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc c'est ce chaos normatif que je voudrais analyser en établissant un lien entre les multinationales, en Afrique en particulier, et le droit au développement. Donc, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la notion du droit au développement pour montrer que, dans une certaine mesure, le chaos commence là-bas. Donc, d'abord, le chaos commence au niveau de la difficulté à définir la notion même du développement. Donc, nous savons qu'il y a plusieurs options, plusieurs perspectives pour définir la notion. La perspective qui met l'accent sur les ressources, sur les revenus, et l'autre perspective qui nous a été proposée par Amartya Sen et qui consiste à élargir la base informationnelle pour intégrer des considérations relatives à ce qu'il appelle lui-même les capacités. Et c'est ce qui conduit Amartya Sen à définir le développement comme étant l'extension de toutes les libertés possibles. Donc, et on peut ajouter à cette perspective de Sen les définitions qui nous sont proposées par un certain nombre d'organisations, de FNUD, et qui ont conduit à concevoir la notion de développement humain, qu'on pourrait compléter aussi avec la notion de développement durable. Donc si on considère tout ce parcours, on pourrait dire que la notion de développement humain est sortie du chaos initial, c'est-à-dire au début, on avait tendance à mettre trop l'accent sur les ressources. Donc il y a des débats sur cette conception de développement. Et on sort progressivement de ce chaos, même si on n'en est pas sorti complètement, parce que la définition proposée par Amartya Sen est l'objet d'un certain nombre d'objections, et certaines approches viennent de nous être présentées, critiques de Rawls, critiques de Dworkin, critiques de Flaubert, etc. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on n'a pas le chaos, le même chaos qu'on avait au début, il y a 20 ans, par exemple, quand on essayait de définir le développement. Et le même chaos relatif se retrouve au niveau du droit du développement. Donc l'idée de faire du développement un droit a émergé dans les années 70. C'est le groupe des 77 qui avait considéré que les activités économiques des multinationales avaient pour effet de priver les pays du tiers-monde, les pays du Sud, de leur droit au développement. Donc cette notion a été retenue pour instituer en 1974 ce qu'on appelait le nouvel ordre économique international, et pour donner lieu en 1986 à une sorte de déclaration sur le droit au développement. Bon, là aussi, on peut dire qu'on sort progressivement d'un certain chaos, parce que si la définition proposée par Amartya Sen, par exemple, a permis de donner un certain nombre de critères précis, qui sont certes encore discutés, mais quand même qui sont plus précis qu'autrefois, donc on peut avoir une idée relativement plus précise de ce que c'est que le droit au développement en s'appuyant sur ces critères. Et par rapport à l'objection des juristes qu'on connaissait avant, qui consiste à dire qu'on ne peut pas parler d'un droit au développement parce que la notion n'est pas précise. On ne sait pas qui sont les bénéficiaires de ces droits, on ne sait pas aussi qui sont les débiteurs par rapport à cette objection. On peut dire que si on se réfère à la notion de développement humain et à la notion de développement durable, on sait un peu mieux ce que c'est que le droit au développement. Et à partir de cette notion, on peut aussi savoir qui sont les débiteurs de ce droit ou encore plus qui sont les violateurs du droit au développement. Et en parlant des violateurs du droit au développement, je peux penser aux États, je peux penser aux multinationales en l'occurrence. Et ça me permet d'arriver à la question du lien entre la présence des multinationales dans les pays du Sud et le droit au développement. Donc par rapport à ce lien, il y a deux théories qui s'affrontent. Donc il y a d'abord la théorie néoclassique qui affirme que les capitaux qui vont des pays où ils sont abondants vers les pays où ils sont rares permettent d'accroître les rendements des nouveaux investissements et produisent des avantages et des gains importants dans les pays d'accueil. Donc, et la deuxième théorie, qu'on appelait la théorie dépendantiste, est incarnée en Afrique par un auteur qu'on appelle Samir Amin, et qui considérait que les multinationales consacrent une sorte d'opposition, de division entre les pays du centre, les pays capitalistes du nord et les pays de la périphérie, et que toutes ces activités ont pour effet nécessairement de priver les pays du sud de leur droit au développement. Bon, maintenant, je reviens sur la théorie néoclassique, où on peut voir deux choses. Donc, l'affirmation selon laquelle le transfert des capitaux permet un accroissement des rendements. Tous les rapports le montrent. Il y a plusieurs multinationales qui ont vu leur profit s'accroître de manière énorme. Par contre, la deuxième partie de cette théorie qui consiste à dire que ces investissements produisent des avantages et des gains importants dans les pays d'accueil, c'est ça qu'il est un peu plus difficile d'établir empiriquement. Et à ce niveau, je préfère me référer aux rapports qui sont souvent établis par des organisations non gouvernementales, donc rapports qui ont tendance en général à dénoncer la violation des droits humains et la violation de l'environnement par les multinationales en Afrique. Pour le cas de la République démocratique du Congo seulement, il y a au moins 100 plaintes contre les multinationales qui opèrent dans ce pays-là. Et l'année 2010, il y a une autre multinationale qui opère au Cameroun qu'on appelle Bolloré, c'est le groupe Bolloré, qui a été l'objet d'une plainte, entre guillemets, auprès de l'OCDE, etc. Donc, il y a beaucoup de multinationales qui sont au sujet de plaintes, au moins 150 si on prend l'ensemble des pays africains. Donc, les histoires de plaintes portant sur les multinationales sont abondantes. Et donc, à partir de ces rapports qui sont établis par les organisations non gouvernementales, je me permets d'évoquer ou de présenter, disons, trois hypothèses. Donc, la première, c'est que l'impact des multinationales sur le développement, dans son sens large, peut difficilement s'établir en termes d'apport positif substantiel. Et le deuxième point, c'est que si les multinationales ont tendance à tirer le meilleur parti possible des situations sociopolitiques en présence dans les États faibles en Afrique, etc., donc il faut y voir la nécessité d'une régulation. Et la troisième hypothèse, c'est que l'impact des multinationales sur le droit de développement dans les pays du Sud dépend très largement du statut normatif qui sera donné dans les années à venir à la responsabilité sociale des entreprises et des multinationales. Donc j'aborde maintenant le dernier point, le statut normatif de la régulation des activités des multinationales en Afrique. Et je présente l'alternative entre ce qu'on appelle en droit hard law, le droit contraignant, et la soft law, un droit mou, un droit non contraignant. Donc je parlais de la répétition des plaintes contre ces multinationales qui a conduit à une activité normative très très intense. En fait, il y a beaucoup de codes éthiques que les entreprises se donnent déjà elles-mêmes. Mais on remarquerait aussi que beaucoup d'organisations internationales ont essayé d'élaborer en direction des multinationales un certain nombre de codes. Nous connaissons la Global Compact, l'OCDE, ses principes directeurs, et au niveau de l'ONU, le dernier texte date de 2011, sans compter les différentes normes qu'on appelle les ISO, ISO 9000, et ISO 14000, et puis plus récemment encore ISO 26000. Toutes ces normes, on l'a relevé, relèvent de ce qu'on appelle la soft law, donc qui sont les fruits d'une autorégulation ou bien d'une co-régulation entre les différentes multinationales concernées. qui correspond aussi à la définition qui est souvent donnée à la responsabilité sociale de l'entreprise par les organisations, comme l'OCDE qui considère que la responsabilité sociale d'entreprise, c'est l'intégration volontaire par les entreprises d'un certain nombre de considérations relatives à l'environnement et aux droits humains. Donc, en fait, les entreprises préfèrent en général ce genre de normes qui ne sont pas trop contraignantes et qui ne rentrent pas en contradiction avec leurs propres intérêts. Mais les ONG qui défendent les droits humains estiment que à partir de ce genre de normes, on ne peut pas garantir un vrai droit au développement, parce que le droit au développement véritable, pour qu'il soit effectif, il faut qu'il soit en même temps justiciable, il faut qu'il soit opposable. Et donc, ce n'est pas dans le cadre d'un droit mou, dans le cadre d'une soft law qu'on peut établir un droit justiciable. Au niveau de l'OCDE, par exemple, bon, on a prévu la possibilité des recours. Mais ces recours ne sont pas considérés véritablement comme des recours judiciaires. C'est des recours qui sont désignés en termes de circonstances spécifiques. Circonstances spécifiques. Et dans le texte de l'OCDE, on dit qu'il peut avoir recours s'il y a des questions soulevées dans la mise en œuvre des principes directeurs. Donc, s'il y a des questions soulevées. Donc, une organisation peut signaler qu'il y a des problèmes par rapport à la mise en œuvre des principes directeurs, mais on ne parle pas de plainte, on ne parle pas de recours judiciaire. Et l'OCDE demande de s'adresser à ce qu'ils appellent les points de contact nationaux. Et la tâche d'un point de contact national, qui n'est pas une juridiction, qui n'est pas une instance judiciaire, c'est simplement d'examiner ces questions soulevées et ensuite de proposer des recommandations. Bon, ça s'arrête là, il n'y a pas de recours possible. Et donc, du coup, dans cette stratégie, les ONG estiment qu'on ne peut pas, dans ce cadre, établir un vrai droit au développement. Par contre, le dernier texte de l'ONU qui est paru en 2011 donne une sorte d'espoir sur la possibilité de faire de ce droit un droit opposable, un droit justiciable. Et ce texte ne propose pas de véritables normes de responsabilité sociale de l'entreprise, mais demande que les multinationales respectent les droits humains. Donc, respectent les droits humains en s'appuyant en particulier sur les normes internationales qui sont déjà en vigueur, qui pour la plupart sont contraignantes, qui pour la plupart ont déjà été ratifiées par les États. Et ce texte prévoit aussi la possibilité de recours judiciaire en cas de violation des droits humains. Donc pas de nouvelles normes, on s'appuie sur des normes existantes qui sont des normes contraignantes. Et par ce biais, on arrive à une sorte de hard law qui peut donner une plus d'effectivité à la responsabilité sociale des multinationales en Afrique. Donc finalement, pour conclure, cette responsabilité, est-ce qu'elle devrait se situer entre hard law et soft law? En fait, moi, je répondais en disant oui, entre hard law et soft law, mais dans quel sens? Il ne s'agit pas d'une sorte de dichotomie, c'est ou bien la hard law ou bien la soft law, c'est une sorte d'entre-deux. D'entre-deux qui consiste à montrer que c'est une combinaison de hard law et de soft law, ou encore une manière de retrouver la hard law par le biais de la soft law qui peut permettre de faire du droit de vraiment un droit effectif et véritable. Voilà, merci.
Alors,